En 1995, Michael Schumacher a tout pour être heureux. Il se marie avec Corinna, l'ex de son ancien rival Heinz-Harald Frentzen. Il est désormais une star en Allemagne et profite de son ranch peuplé de chevaux. Et côté compétition, il remporte 9 victoires au volant d'une Benetton parfaitement à la hauteur de ses espérances. Curieusement, il choisit ce moment pour tenter un pari stupéfiant, remettre la Scuderia Ferrari sur le chemin de la victoire et réussir là où Nigel Mansell et Alain Prost ont échoué.
Épisode 5, le téléphone rouge.
Bauhaus, Ihr Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten. Goodyear, making a change for the better. Und Beru, die Zünd- und Glühkerzenexperten, präsentieren die Formel 195.
Pierre Van Vliet, au moment de démarrer la saison 1995, tous les feux sont au vert pour Michael Schumacher. La Benetton est désormais équipée d'un V10 Renault et la B195 est entièrement conçue autour de lui.
Oui, Flavio a réussi un coup de maître en récupérant le moteur Renault parce que le V8 Ford était quand même limité en puissance pure et en développement, alors que chez Renault, ben, c'était vraiment l'âge d'or de ce moteur V10 atmosphérique. Et sur la Williams, hein, il avait effectivement permis à Williams aussi de maintenir une suprématie tout au long des années 90. Récupérer le moteur chez Benetton, évidemment, c'était un bon coup pour Renault, mais c'était un moins bon coup pour Williams. Mais bon, c'est Flavio qui avait réussi ce coup de maître. Du coup, avec la Dream Team, hein, les ingénieurs qu'on a cité dans l'épisode précédent, le moteur V10 Renault et Michael Schumacher aux manettes, eh bien, il y avait là effectivement une arme absolue dont Michael a fait excellent usage, puisque la saison 95, il s'est un peu baladé. Et l'équipe était devenue un peu aussi son équipe, quoi. C'est-à-dire qu'il avait réussi à catalyser les énergies autour de lui. C'était entre guillemets un one-car team, c'est-à-dire que déjà en 94, hein, il y avait eu JJ Leto et puis Verstappen, etc. Enfin, les équipiers avaient été broyés à la moulinette. Et en 95, c'est Johnny Herbert qui revient chez Benetton pour épauler Schumacher, mais il ne voit pas le jour. Johnny Herbert, Michael est beaucoup plus rapide.
Justement, cette année-là, Michael remporte 9 victoires, dont quelques-unes assez mythiques comme à Spa ou au Nürburgring, là aussi dans des conditions difficiles.
Oui, et toujours à Spa, on y revient, hein, c'est récurrent. Et la pluie aussi, effectivement. À Spa, c'est intéressant parce qu'il y a un mano à mano avec des monils et l'un en pneu slick ou en pneu intermédiaire, l'autre en pneu pluie, etc. Et Schumacher se joue de des monils, quoi, et montre sa science du pilotage, notamment quand c'est glissant. Et entre Damon et Michael, c'était très mental aussi. Hein. C'était un duel où on sentait que Damon, il était quand même moins solide mentalement. Peut-être que la Williams était meilleure ou plus rapide que la Benetton dans certaines circonstances. Damon a aussi élevé son niveau de jeu. Hein. Mais voilà, ce jour-là, c'était quand même une défaite très significative pour Damon.
Alors qu'on voit apparemment Damon, c'est Damon qui part en tête à queue, non ?
Tête à queue, ouais.
Un peu énervé, il perdra pas sa troisième place, mais il perdra peut-être la possibilité d'être deuxième, ce qui dans l'optique du championnat est une très mauvaise opération pour lui, mais il est quand même très malchanceux.
Pareil au Nürburgring, hein, ou aussi sur une piste mouillée, où voilà, ça s'échant, etc. Damon part à la faute, il se plante dans la boue, et Michael pourrait assurer la deuxième place parce que ça lui rapporte de gros points pour le championnat. Il est déjà largement en tête du championnat, mais il lâche pas. Il est devant son public, il est au Nürburgring, il est chez lui. Il y a Jean Alesi qui est en tête avec la Ferrari pendant quasiment tout le Grand Prix. Et à 2 tours de la fin, Michael est dans les échappements de la Ferrari et il va à l'abordage, il fait un dépassement un peu viril. Je me souviens qu'à la radio chez Benetton, on disait ne l'attaque pas, il reste 2 tours, fais pas le con, etc. Et il y va quand même et il passe, quoi. Et il gagne le Grand Prix et il prive Jean d'une victoire en Ferrari. Mais bon, les deux hommes sont néanmoins restés très bons amis.
C'est justement, on pourrait dire, un tressaillant de Schumacher, c'est ce côté team leader, c'est ce côté
broyer les adversaires, ça, c'est quelque chose qu'on peut qualifier comme ça ?
Oui, mais c'est un peu la marque de fabrique des grands champions. Hein. Ils ne supportent pas d'avoir un pilote rapide à côté d'eux, et donc tout de suite, ils essaient de marquer le territoire, ou tout de suite, ils essaient de tirer l'équipe vers eux pour empêcher une concurrence interne d'une certaine manière, et même dans une rivalité externe comme le duel avec Damon Hill pour le championnat, tous les coups sont permis, y compris sur le plan moral ou mental, pour diminuer l'adversaire.
C'était Damon Hill qui se rapprochait de plus en plus de Schumacher.
Et Schumacher va régler ses comptes.
Pardon ?
Schumacher va régler ses comptes avec Damon Hill. Il a couru vers la voiture de Damon Hill.
On va voir ça, vu de la caméra embarquée.
Alors Schumacher est chez lui, chez Benetton, et pourtant, pendant l'été, on a des rumeurs de départ qui s'intensifient et toutes pointent en direction de Maranello. Comment va Ferrari déjà à cette époque ?
Ferrari va mal dans la mesure où ça fait depuis 79 qu'ils n'ont pas gagné un championnat, ou depuis 82-83 pour ce qui est du titre constructeur. Donc c'est quand même plus de 10 ans de disette. Il y a eu évidemment la disparition du Commendator, la mainmise des gens de Fiat sur la gestion de Ferrari. Et puis finalement, Luca di Montezemolo qui revient à la présidence de Ferrari en 91 et qui va chercher Jean Todt pour diriger la Scuderia à partir de l'été 93. Et Jean Todt, lui, avait essayé d'amener Peugeot en Formule 1, n'y est pas parvenu, et donc quand on lui propose Ferrari, évidemment il y va, et il y va avec la ténacité qui le caractérise, hein, Jean, et il travaille aussi sur le long terme parce qu'il sait que chez Ferrari ça va pas pouvoir marcher du jour au lendemain, mais il construit patiemment, méthodiquement ce qui va devenir l'armée rouge, hein, ce qui va devenir l'orchestre rouge.
Je suis très heureux d'avoir signé avec cette écurie, j'espère qu'on arrivera à faire des choses intéressantes, marquer des points et pourquoi pas un titre de champion du monde. Montant du transfert, 122 millions de francs, une sacrée somme, même Ayrton Senna n'a jamais touché autant d'argent.
Le fait de ramener, de recruter un champion du monde en activité comme Michael, qui est quand même deux fois champion du monde avec Benetton, c'est significatif de l'ambition de Ferrari et de Jean Todt et de Schumacher. Parce que Schumacher s'est rendu compte chez Benetton que voilà, il avait fait le boulot, il était champion, il pouvait continuer à gagner sans doute avec la Benetton Renault l'année suivante, ou passer chez Mercedes, parce qu'il y avait toujours des liens avec Mercedes, bien sûr, et Mercedes, là, devenait un client en tant que motoriste, en tout cas chez McLaren. Il y a eu des approches de Ron Dennis dans ce sens à l'époque. Et puis Michael et Willy Weber, qui était quand même le conseiller de Londres, ont privilégié la piste Ferrari alors que Ferrari était dans le creux de la vague. Précisément parce que c'est ce qui pouvait mettre Michael en valeur, c'est pas de gagner dans la continuité ou dans une certaine facilité, mais de relever un défi, un challenge. Et voilà, c'est tout à son honneur quand même d'avoir rejoint Ferrari à ce moment-là. Et ça dénote aussi la détermination et la capacité de conviction de Jean Todt pour avoir un pilote. Il manquait. Jean Todt avait déjà restructuré l'équipe technique. Il y avait de nouveau John Barnard qui était repassé par là et qui avait été écarté. Et du coup, dans la préparation de cette Scuderia Jean Todt, comme par hasard, on a vu arriver Ross Brawn d'abord, Michael tout de suite, hein, pour être le leader. Et puis dans la foulée, Ross Brawn a ramené Rory Byrne, Nigel Stepney, enfin la reconstitution de Ligue dissoute, quoi, un peu la Dream Team de Benetton qui est passée chez les Rouges.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy Daville, prise de son et montage Clément Glitter, voix off Marie Lisac.